Il existe maintenant un guide des aliments forestiers de Fermont, un outil pour mieux connaître comment on peut cueillir les végétaux qui nous entourent chez nous. C'est un projet qui est né d'une collaboration entre la MRC de Kanyapisco et la table bioalimentaire Côte-Nord. Et justement, pour nous parler un petit peu de ce guide et puis de comment ça s'est un peu fabriqué en arrière-plan, je reçois en entrevue le directeur général de la table bioalimentaire Côte-Nord, Martin-Pierre Tremblay. Bonjour.
Bonjour.
Alors, un projet quand même intéressant pour les gens de Fermont. On sait qu'on a des végétaux autour de chez nous qui sont quand même particuliers de par notre position géographique. Puis, la table bioalimentaire Côte-Nord qui encadre quand même la cueillette souvent dans différents territoires. Le fait qu'il y ait ça maintenant dans Kanyapisco, à Fermont, est-ce que pour vous, c'est une bonne chose justement de voir que le territoire, le terroir plutôt, qu'on a autour de chez nous se développe également avec le reste de la région?
Absolument. Pour nous, ben, ça vient remplir une partie de notre mission qui est justement de mettre en valeur les richesses du territoire nord-côtier. Puis ça inclut évidemment les super richesses que vous avez dans la Kanyapisco. Puis oui, on pense que c'est une initiative qui permet de se réapproprier le territoire, de connaître nos fruits, nos aromates, nos champignons forestiers. Puis, on veut l'étendre à toute la Côte-Nord. Puis on voulait débuter dans Kanyapisco parce que c'est une région qu'on adore. Puis moi, je suis natif de là. Fait que, donc, pour moi, puis pour les gens de la MRC, tout ça, c'est un projet qui nous tenait à cœur.
Ça a été quoi le rôle de la table bioalimentaire Côte-Nord là-dedans pour monter ce guide-là et avec tout ce qu'il contient, en fait, pour guider les gens à travers leur cueillette?
Bien, nous, on a été contactés par la MRC justement dans le but de faire en sorte de faire quelque part un inventaire en collaboration avec les cueilleurs locaux, faire un inventaire des bioressources qu'on trouve dans les écosystèmes forestiers là-bas. C'est évident que c'est un guide où on a choisi un certain nombre d'aliments forestiers. C'est pas exhaustif, mais c'est des aliments qu'on retrouve aux alentours de Fermont. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a recensé ces espèces-là, on a écrit les fiches pour les présenter, on a fait à peu près tout le travail de rédaction et les photos. Puis, comme je dis, toujours en collaboration avec un certain nombre de cueilleurs puis de gens de Kanyapisco. Puis, les gens de l'agence Cervidé, avec qui on travaille déjà, nous, à la table bioalimentaire, sont eux qui fabriquent notre magazine Le Goût de la Côte-Nord. Puis c'est aussi l'équipe qui est derrière le magazine Caribou, qui est quand même très connu en bioalimentaire. Donc, on a travaillé avec eux pour donner un aspect ludique, le fun, tu sais, à ce petit guide-là, permettre que ce soit librement distribué. Puis on en a fait une version aussi en français et en anglais, donc pour permettre, si ça se trouve, aux touristes de pouvoir aussi profiter des richesses et des superbes écosystèmes qu'on trouve dans la Kanyapisco.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a un format papier qui va être en production en vue du printemps qui s'en vient, où est-ce que les gens pourront avoir le fameux guide entre leurs mains. Sinon, il est déjà disponible en ligne. Je l'ai vu sur le site web de la MRC de Kanyapisco. Monsieur Tremblay, pourquoi c'est important d'encadrer un peu cette pratique de la cueillette de nos végétaux dans notre territoire? Je vois qu'il y a quand même beaucoup de sujets dans le guide qui parlent de respecter les écosystèmes, de faire une cueillette qu'on dit responsable. Pourquoi est-ce qu'il faut encadrer tout ça?
Ben, c'est parce que il y a des espèces qui sont très abondantes, évidemment, mais il y a des espèces qui sont un peu plus fragiles. Puis quand on pratique la cueillette d'aliments forestiers ou de produits forestiers non ligneux, on essaie toujours d'adopter de bonnes pratiques. Ça veut dire de ne pas tout cueillir ce qu'on trouve, évidemment. De faire attention aussi aux sentiers puis à l'écosystème, à ce qu'il y a autour de ces aliments forestiers-là. Puis également aussi des petites notions de sécurité en forêt, tu sais, d'orientation et tout ça. On sait que parfois, on peut rentrer quand même assez creux en forêt pour que ce soit trouver des petits fruits, des champignons, etc., des aromates. Donc, on essaie de faire en sorte que l'expérience soit positive, le fun, que ça puisse se faire en famille aussi, hein, qu'il y ait un aspect de loisir et de saines habitudes de vie là-dedans. Donc, oui, pour nous, c'est très important à la table bio. On veut toujours que la protection des écosystèmes soit au cœur de nos actions. Donc, que ce soit quand on cueille des petits fruits, quand on pêche du poisson, quand c'est des opérations de pêche commerciale, d'agriculture, on veut toujours que les écosystèmes soient protégés, qu'on en prenne soin, parce que c'est notre garde-manger à nous tous, nord-côtiers.
Puis dites-moi, qu'est-ce qu'on a de particulier sur notre territoire qu'on peut cueillir? Avez-vous quelques exemples à nous donner?
Bien, moi, écoutez, il y en a plusieurs qui sont recensés dans le guide, mais je vous dirais que il y a de l'Arel d'Ingida, super belle Arel d'Ingida dans la Kaniapiskau. C'est un petit fruit qui a des propriétés excellentes pour la santé. On retrouve, bon, évidemment, du bleuet, du myrique baumier, qui est un aromate de très, très... qui est extrêmement valorisable dans l'alimentaire. On en retrouve partout, puis on en retrouve autour, entre autres, du lac Barbel, dans le coin de Gagnon. Donc, tu sais, il y a beaucoup, il y a des champignons forestiers, évidemment, des bolets, certaines autres espèces, le matsutake, entre autres. Donc, la chanterelle à tube, notamment dans des petits écosystèmes de tourbières. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui se retrouvent dans la Kaniapiskau, puis évidemment, quand on cherche, on trouve pas toujours immédiatement ces espèces-là, mais on sait qu'elles sont présentes, notamment à cause des populations d'arbres et tout ça, puis aussi parce qu'elles ont été recensées par des cueilleurs, puis des gens qui pratiquent la cueillette dans le secteur de Kaniapiskau.
Je vous entends sur tous ces produits qui se retrouvent dans notre nature autour de chez nous à Fermont. On sait qu'il y a quand même des cueilleurs aussi également chez nous. Est-ce que le fait de développer ce type de guide montre qu'il y a un certain besoin pour développer un peu le terroir naturel qu'on a à Fermont?
Ah, tout à fait. Une fois qu'on parle de cueillette, on peut aussi parler de transformation alimentaire. Donc, il n'y a rien qui empêche, tu sais, les citoyens de s'emparer de ces bioressources-là, puis d'en faire, tu sais, de les inclure à des recettes, d'en faire des confitures, des coulis, etc. Donc, évidemment, c'est un premier pas. Identifier, cueillir, repérer, trouver. Mais après, bon, ça peut s'intégrer dans le système alimentaire. Il y a moyen de transformer ces ressources-là. Le potentiel est infini, mais il faut qu'on commence d'abord par s'y intéresser, puis qu'on commence d'abord par essayer de trouver, d'aller en forêt, puis de comme je disais tout à l'heure, de faire une cueillette responsable. Mais évidemment, on souhaite que, c'est notre mission beaucoup à la table bioalimentaire de la Côte-Nord, que les ressources bioalimentaires de la Côte-Nord soient mises en valeur, qu'on les retrouve dans les assiettes des Nord-Côtiers, puis dans nos restaurants également. C'est vraiment notre souhait le plus cher, puis c'est une partie très importante de notre mission.
Est-ce que Kaniapiskau faisait partie des secteurs que vous souhaitiez développer pour éventuellement peut-être développer ce type de projet? Peut-être qu'un jour, on aura de nos produits de Kaniapiskau dans les assiettes des restaurants de la Côte-Nord?
Absolument. On pense que les ressources forestières qu'on trouve, en fait, les aliments forestiers qu'on trouve à la fois dans la Manicouagan, dans les Monts Gros et plus haut dans la Kaniapiskau, sont d'une qualité exceptionnelle, sont abondants. C'est évident qu'il y a des réflexes à développer. Il faut qu'il y ait une cueillette qui soit quand même assez importante si on veut faire de la transformation alimentaire éventuellement. Mais il est évident qu'on souhaite que ce qu'on retrouve dans l'écosystème de toutes les MRC de la Côte-Nord, là, se retrouve, comme je le mentionnais, disponible pour le consommateur, qu'on soit capable de le retrouver dans nos tables, dans nos restaurants, etc. Puis, il n'y a pas de raison, surtout dans une époque où est-ce que, justement, tu sais, le gros de notre alimentation vient, tu sais, est transporté depuis les grands centres jusqu'à nous. On pense que c'est de plus en plus important de valoriser nos ressources nord-côtières. Et non seulement ça, ces petits fruits-là et ces aromates-là, ils ont des propriétés qui sont exceptionnelles pour la santé. On est dans des écosystèmes qui sont sains, où il n'y a pas d'engrais puis de produits chimiques qui sont utilisés. Donc, pour nous, ça fait partie aussi des choses qu'on souhaite, c'est-à-dire les mettre en valeur, puis qu'on puisse les retrouver dans le marché un peu partout.
Puis je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un risque également d'encourager peut-être les gens à aller sur le terrain pour découvrir ces végétaux-là? Je pense à peut-être des erreurs entre un champignon qui peut être comestible ou un autre qui peut ne pas l'être, ou bien encore de pénaliser un petit peu la qualité du territoire qui est déjà prisé par de nombreux cueilleurs locaux?
Bien, ça, c'est une bonne question. L'idée de l'identification, elle est très importante. C'est pour ça qu'il y a des photos dans le guide. C'est pour ça qu'on met une mise en garde, puis il y a aussi une petite notice si jamais il arrivait quelque chose. Pour nous, le principe est le suivant. Il ne faut jamais consommer, que ce soit un produit forestier non ligneux ou un aliment forestier qu'on n'est pas capable d'identifier avec assurance. Donc, très important de bien identifier les choses avant de les consommer. Dans le doute, on s'abstient. Si on n'est pas certain qu'un champignon qui est recensé dans notre guide est vraiment celui qu'on a cueilli, on s'abstient de le consommer. Évidemment, bon, la question ne se pose pas vraiment par rapport à des bleuets, des framboises. La grande majorité des citoyens sont capables de les reconnaître. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs possibles à ce niveau-là. Mais pour certains champignons qu'on a mis, il est clair qu'il faut faire attention. On n'en a pas mis beaucoup d'ailleurs. Et ceux qui sont dans le guide sont assez facilement identifiables et n'ont pas nécessairement d'autres champignons qui sont suffisamment apparentés pour qu'on se trompe. Mais il faut toujours être vigilant à la fois dans la cueillette, dans qu'est-ce qu'on fait après. Si on n'est pas certain que c'est le champignon et ou l'aromate forestier qu'on cherche, on s'abstient. On a aussi intégré comment les apprêter, quelles sont aussi les valeurs nutritives, ces choses-là. Donc, on fait un premier pas. Par contre, il faut toujours être prudent, puis je ne le répéterai jamais suffisamment. Il faut faire attention, puis dans le doute, on ne consomme pas le produit de la cueillette.
Vous faites bien de le mentionner, puis j'imagine que le guide vient aussi répondre à peut-être certains questionnements de la population qui veut s'intéresser au territoire, à tout ce qu'on a de comestibles autour de chez nous. Bon, les bleuets, les framboises, on voit déjà plusieurs personnes en faire la cueillette à chaque année, à chaque fin d'été, mais pour le reste de ces aliments qui sont accessibles chez nous, j'imagine que le guide va être un bon point de départ pour une majorité de gens qui veulent peut-être varier un peu plus ces cueillettes.
Oui, ben oui, oui. Et l'idée, c'est ça, c'est d'étendre la variété des espèces qui peuvent être cueillies, puis recensées, repérées. Évidemment, le guide va, avec le temps, être bonifié. C'est une première version. On va le lancer, le printemps va arriver, les gens vont avoir la version papier, tout ça, ils vont pouvoir faire leurs propres petites expéditions de cueillette et tout ça, mais on va le bonifier avec le temps. On veut que ce soit un outil qui représente vraiment ce qu'on peut trouver dans Kanyapsico.
Le guide qui est disponible déjà en ligne sur le site web de la MRC de Kanyapsico pour ceux et celles qui veulent déjà peut-être aller voir à quoi ça ressemble, à quoi ils peuvent s'attendre aussi pour l'été prochain. Puis à partir du printemps, il y aura le fameux format papier, comme on le disait un petit peu plus tôt. Ça va être distribué par la MRC et le Bureau d'information touristique. Donc autant les résidents que les visiteurs pourront en profiter. On aura peut-être l'occasion de se reparler de l'évolution de ce guide au fil du temps. Monsieur Tremblay, merci beaucoup pour ces précisions sur cette première version. Puis bien, au plaisir peut-être de se reparler bientôt là, de ce sujet-là.
Bien, ça me fait plaisir. Je veux juste ajouter quelque chose, c'est qu'il faut aussi dire qu'il y a des espèces, la cueillette, ça se fait sur 4 saisons, puis il y a des espèces qu'on peut cueillir en hiver, notamment le poivre des dunes ou ce qu'on a appelé, nous, le poivre de la taïga. Donc, ce qui est intéressant dans le guide, il y a ça aussi, c'est le fait qu'on peut cueillir des aliments forestiers sur 4 saisons. Donc, les lecteurs, ceux qui vont consulter le guide, vont pouvoir aussi voir qu'il est possible de cueillir des choses autant l'hiver que l'été.
Donc, on peut en profiter toute l'année. Monsieur Tremblay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se dit à une prochaine.
Ça me fait plaisir. Allez, bonne journée. Au revoir.
Cette entrevue a été réalisée dans le cadre de l'initiative de journalisme local.